Radio Libertaire 89.4. Nous sommes toujours en direct des rencontres internationales de Saint-Imier.
Voilà, et donc pour continuer le propos sur l'éducation que nous avions tout à l'heure avec Maribel sur l'école libertaire de Buenos Aires, là, donc la compagne de la Fédération libertaire argentine, qui a évoqué ce qu'il met en place dans ce cadre-là. Nous avons avec nous Rodrigo, voilà, qui est lui aussi délégué au Congrès de l'International des Fédérations anarchistes, et puis Louisa.
Julia.
Ah oui, Louisa de venir, elle n'a pas pu, donc c'est... Ouais, non, je plaisante, je retiens mal les prénoms. Qui à la fois assurera la traduction de Rodrigo, mais qui nous donnera aussi quelques éléments d'éducation populaire à Rio de Janeiro. Hein, donc elle aura un peu la double casquette. Et j'aimerais qu'on évoque, donc, comme on l'a fait avec Maribel, la dimension historique, donc la tradition ou pas de l'éducation libertaire au Brésil. Donc dans le siècle passé, dans le 19e, 20e éventuellement, voilà. Et dans un deuxième temps, on évoquera les réalisations pratiques des libertaires ou de gens qui ont des pratiques proches des libertaires dans l'éducation initiale ou dans la formation des adultes.
Okay. Je comprends.
Ah ben c'est parfait.
Je comprends.
Moi j'ai fait la traduction. Bon, a priori il a compris la question, donc il va enchaîner. Et après, je fais la traduction en français.
Bah donc, Rodrigo, alors, historiquement, est-ce qu'il y a eu des expériences d'éducation libertaire au Brésil? Et qui les a conduits?
Si, no Brasil, comme em quase toda a América Latina, o movimento anarquista surgiu e ganhou força com a chegada dos imigrantes europeus, dos trabalhadores europeus.
Au Brésil, comme dans la plupart des pays de l'Amérique, d'Amérique latine, le mouvement anarchiste il est né, il a pris force avec l'arrivée des immigrants européens.
Et en conjunto avec l'organisation syndicale, même, les grèves, le mouvement operário, les travailleurs et les anarchistes dans ce mouvement, no movimento operário, se preocupavam também com a questão da cultura e da educação.
Avec le travail de militants politiques, les grèves, le mouvement ouvrier, les travailleurs et travailleuses, ils se préoccupaient aussi avec l'éducation dans ces mouvements-là.
Et isso nos últimos anos do século 19.
Ça, c'était dans les dernières années du 19e siècle.
Logo nos primeiros anos do século 20, algumas experiências de escolas, não exatamente escolas, mas de projetos educativos dentro de sindicatos começaram a acontecer.
Nas primeiras années do 20e século, quelques expériences d'école, mais pas exatamente d'école, mais de projets d'éducation, sont nés dans des syndicats.
Os sindicatos de orientação anarquista tinham como se fosse classes, aulas ou momentos preparatórios, tanto para uma formação profissional, que no Brasil não existia escolas de formação profissional, como de formação humanista, uma formação mais geral.
Les syndicats, le syndicat anarchiste, dans ce cas-là, ils avaient...
Il s'appelait comment, syndicat anarchiste, pour les auditeurs?
Comment se chamava un syndicat? Un syndicat anarchiste ou un syndicat... Mais c'est des syndicats d'orientation anarchiste.
Syndicats d'orientation anarchiste, oui. Sont vários syndicats qui ont des noms différents. No Brasil, se usava o nome syndicat ou União Operária.
Il y en a plusieurs qui étaient dans cette orientation anarchiste. Et au Brésil, on pouvait appeler syndicat ou Union Ouvrière. Ils offraient des formations aux ouvriers, des formations professionnelles, c'est qu'elles n'existaient pas à l'époque, et des formations professionnelles et aussi humanistes. Donc,
général, quoi.
Général.
Ouais, c'est ça.
Et ces moments de formation acabaram, de certa maneira, pressionando o Estado e o governo a tomar algumas medidas e algumas a criar políticas públicas de educação no período.
Donc, comme ils faisaient une formation par eux-mêmes, le fait de le faire a fait pression au gouvernement pour qu'ils mettent en place des politiques publiques de formation professionnelle. C'est que ce n'est pas été fait par les syndicats.
C'est grâce à l'action des anarchistes que l'État brésilien a commencé à mettre en place des formations professionnelles.
Oui, c'est ça.
Voilà. Il faut peut-être expliquer aux auditeurs que le mouvement anarchiste et syndicaliste au Brésil, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, était extrêmement puissant.
Tem que explicar aos auditores que o movimento sindicalista no Brasil era muito forte e anarquista.
Sim. O movimento anarquista tinha seu principal espaço de atuação, o movimento operário mesmo. E tinha uma força muito grande, principalmente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, cidades que... passaram por processo de industrialização e crescimento da classe operária muito grande.
Le mouvement anarchiste, il avait comme principal champ de militance politique les syndicats ouvriers, et principalement dans les grosses villes comme São Paulo, Rio, Porto Alegre, et qui étaient les villes qui ont passé par des processus d'industrialisation importants.
Ainsi que durante muitos anos, os primeiros 20 ou 30 anos do século 20, a hegemonia política da classe operária brasileira nessas regiões mais industrializadas era dos sindicatos de orientação anarquista.
Les premières ventes 30 ans du début du 20e siècle, l'hégémonie politique des syndicats ouvriers a été de la part de mouvements anarchistes.
Et en termes de números, a classe operária, par exemple, em São Paulo, era uma cidade não muito grande na época, mas eram milhares de trabalhadores e as greves se espalhavam muito facilmente, porque tinha uma rede de solidariedade entre os sindicatos em que as greves, mesmo pontuais, começavam a se expandir.
Si on parle de nombre, São Paulo, c'était pas une ville très grande à l'époque, mais ça prenait une importance dans la ville parce que les grèves, même si elles étaient ponctuelles, elles s'élargissaient dans un champ avec d'autres syndicats parce qu'il y avait une solidarité forte entre les syndicats et ça pouvait vite devenir une espèce de grève générale.
Ah. Si.
Vas-y. Mais on reviendra à l'éducation quand même.
Si. Et só para concluir, o movimento anarquista era tão forte na época que, por exemplo, entre outras greves importantes que aconteceram, em 1917 ocorreu uma greve geral em São Paulo, que a cidade ficou basicamente sem governo. Não se pode dizer que foi uma comuna, mas foi um processo em que muitos industriais fugiram, patrões e parte do governo saiu da cidade de São Paulo com medo de uma revolta.
Juste pour donner un exemple de l'ampleur que ça a pris à l'époque, c'est qu'en 1917, il y a eu une grève générale à São Paulo qui a fait fuir une bonne partie du gouvernement, du patronat. Et on ne peut pas appeler ça une commune, comme la
commune de Paris.
La commune de Paris. Mais c'était. Mais c'était. C'est quand même un processus important qui a fait fuir une partie du gouvernement. Voilà.
Le bonheur, combien ça coûte? Est-ce que l'existence vaut son prix? Quel est le bénéfice du doute? Est-ce que la naissance vaut son cri? On traîne au fond de sa bourse plus de questions que de créances et une retenue à la source qui nous interdit les avances. Le bonheur, combien ça coûte? Est-ce que l'amour vaut son prix? Quel est le bénéfice du doute? La franchise donne-t-elle du crédit? Peut-on vivre à découvert? Ou vaut-il mieux se donner le champ? Liquider pour y voir plus clair, pratiquer le libre-échange. Le bonheur, combien ça coûte quand montent les enchères du désir? Quel est le bénéfice du doute? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un empire? C'est quoi l'indice de croissance? Faut-il à tout prix s'affranchir? Ou emboîter la tendance à la grande braderie du plaisir? Combien ça coûte? Peut-on compter sur ses amis? Quel est le bénéfice du doute? Nos comportements sont acquis. Nos manières donnent à penser et toutes nos excuses prêtent à rire. Nos attitudes sont empruntées. Peut-on encore s'appartenir? Est-ce le moment de se racheter? Y a-t-il un moyen de s'investir? Des réserves à porter, une seule devise à retenir. Le bonheur, combien ça coûte? Est-ce que notre peau vaut son prix? Quel est le bénéfice du doute? Qu'est-ce qu'on perd à gagner sa vie? Peut-on spéculer sans danger sur les valeurs à l'échéance? Nous trouvera-t-on quelque intérêt à la clôture de la séance? Le bonheur, combien ça coûte?
Le bonheur, combien ça coûte? Xavier Lacouture, sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et nous sommes toujours en direct des rencontres internationales de Saint-Imier.
Voilà donc avec Rodrigo et Julia pour évoquer l'éducation libertaire au Brésil. Donc on a vu l'importance du syndicalisme et de la présence anarchiste dans ce syndicalisme à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On a vu que très vite, les syndicats s'emparent de la question éducative, ce qui forcera les gouvernements brésiliens à mettre en place de l'éducation professionnelle. Est-ce que dans le même temps, les syndicalistes et les anarchistes brésiliens mettent en place des structures d'alphabétisation pour les travailleurs qui n'ont pas eu la chance ou la possibilité d'aller à l'école?
Si. No Brasil, no começo do século XX e durante muitos anos ainda, a alfabetização não era universal.
Au Brésil, au début du XXe siècle et pendant de longues années encore, l'alphabétisation n'était pas universelle.
Et ainda não é. É diferente da Argentina, que tinha um processo de alfabetização já desde o século XIX.
Différent de l'Argentine, par exemple, qui avait déjà un processus d'alphabétisation presque universel à partir du XIXe siècle.
Assim que os trabalhadores mesmos que tiveram que... através de processos de autoformação e de autodidatismo e de um ensino mútuo, alfabetizar uns aos outros.
Donc les travailleurs, les ouvriers, ils ont dû au travers de processus de auto-formation et des enseignements mutuels faire de l'alphabétisation les uns les autres.
Era muito comum entre os operários que um operário que soubesse ler fizesse a leitura dos jornais, de jornais anarquistas, ou mesmo jornais do dia, para os outros operários que não sabiam ler. E isso estimulava eles a ir à escola do sindicato para se alfabetizar.
C'est très courant parmi les ouvriers que un ouvrier qui sait lire il ouvre le journal du jour et il lit le journal aux autres ouvriers. Et ça, ça motivait les ouvriers à aller à l'école du syndicat et apprendre à lire aussi.
Et il y avait beaucoup de syndicats qui avaient leurs propres écoles ?
Oui, alguns sindicatos criaram, para além desses espaços mais informais ou não formais de educação, pensaram em criar escolas mais estruturadas.
Quelques syndicats ont pensé à créer des écoles plus structurées, au-delà de ces formations d'éducation ou d'alphabetisation professionnelle qui se passaient avant.
Por exemplo, uma das experiências mais conhecidas e que foi bem importante, não durou muito tempo, foi a Universidade Popular do Rio de Janeiro em 1904.
Par exemple, une des expériences plus connues et qui a pas duré longtemps, c'est l'Université Populaire de Rio de Janeiro en 1904.
Sim. Ali, um grupo de intelectuais e alguns cientistas, com apoio dos sindicatos de algumas categorias de trabalhadores, começaram uma universidade popular aberta aos trabalhadores e à população.
Bom, lá, o que se passou é que um grupo de intelectuais, com o apoio dos anarquistas, começou uma universidade popular com os sindicatos de trabalhadores.
Uma experiência que durou pouco tempo, mas que teve foi uma proposta pedagógica muito importante para o desenvolvimento da educação anarquista no Brasil.
C'est une expérience qui n'a pas duré longtemps, mais qui était très importante pour le développement de l'éducation anarchiste au Brésil.
Et donc, ça c'était pour l'activité des syndicats en direction des adultes, des travailleurs et des travailleuses. Est-ce que les syndicats et les anarchistes brésiliens s'intéressent aussi à la formation des enfants? Donc, est-ce qu'il y a eu un mouvement de type école moderne ou école Ferrer, qui est la même chose, mais moderne chez vous, Ferrer chez nous, ou d'autres types d'écoles libertaires qui auraient pu se développer dans ce grand territoire?
Além dessa preocupação com a educação de adulto, os sindicatos e os grupos anarquistas formaram várias escolas para crianças no Brasil.
Au-delà de cette préoccupation avec l'éducation des adultes, les syndicats et les groupes anarchistes ont fondé des écoles pour les enfants au Brésil.
Desde já 1902, 1903, algumas experiências de escolas aconteceram dentro da própria sede dos sindicatos.
À partir de 1902-1903, il y a eu quelques expériences d'école dans les propres des écoles pour enfants au sein du propre syndicat, dans les établissements du syndicat.
En 1907, a União Operária de Campinas, que é uma cidade vizinha de São Paulo, criou uma escola, talvez a primeira grande experiência de uma escola baseada nas propostas de Ferrer.
En 1907, l'Union opérée ouvrière du Brésil a créé
Campinas. Campinas, c'est une région,
c'est une ville à côté de São Paulo.
On ne sait pas forcément toujours nous ici.
Donc l'Union ouvrière de Campinas, c'est une ville à côté de São Paulo, a fondé une école pour les enfants.
Basé sur les principes de Ferrer.
Basé sur les principes de Ferrer.
Francisco Ferrer, le pédagogue catalan qui sera fusillé en 1909 par les curés et l'armée, quoi.
Sim. Yeah. E logo, após o fuzilamento de Ferrer em 1909, como em toda a Europa, em todo o mundo, aconteceu no Brasil manifestações contra a morte de Ferrer.
Et donc après la mort de Ferrer en 1909, au Brésil comme en Europe aussi, il y a eu beaucoup de manifestations en protestation contre la mort de Ferrer.
Et les travailleurs et les groupes anarchistes du Rio de Janeiro et de São Paulo fondèrent un comité pro-escola moderna.
Donc les travailleurs et les groupes anarchistes de Rio et de São Paulo, ils ont fondé un comité pró-école moderne.
E de 1909 a 1912 trabalharam difundindo as propostas de Francisco Ferrer e arrecadando fundos para inaugurar uma escola.
Donc, et entre 1909 9. et 1912, ils ont travaillé pour diffuser les idées de Franz Kofler et pour racheter un peu d'argent, gagner un peu d'argent pour fonder une école pour de vrais inspirés par Ferrer.
Et au final, en 1912, ils décidèrent fonder une école en São Paulo, une, que seria a escola moderna número 1. E logo, alguns meses depois, eles alcançaram fundar a escola moderna número 2 e número 3.
Donc, après ça, ils ont réussi à fonder une école à São Paulo, que était l'école moderne número 1. Et après, en 1912 et 13, ils ont fondé l'école moderne número 2 et número 3.
Ouais. Et à Rio et à Porto Alegre aussi?
No Rio... não aconteceu uma escola moderna porque os fundos eram suficientes para abrir uma escola e eles se colocaram de acordo em abrir em São Paulo.
En principe, à Rio, il n'y a pas d'école moderne parce que il y avait pas autant d'argent pour fonder deux écoles, donc ils ont sont mis d'accord pour ouvrir la première école à São Paulo.
Mas também como aconteceu na Catalunha, os materiais e a proposta e a prática dessa escola moderna, dessas escolas modernas de São Paulo, se difundiram para cidades do interior, para pequenos sindicatos, para pequenas experiências também baseadas no Ferrer.
Mas também, como se passa em Catalunha, e o material e todas as produções dessas escolas, elas são difusas dans d'autres villes autour de São Paulo et jusqu'à Rio aussi.
Et Porto Alegre, que você perguntou, teve um movimento muito importante, uma escola baseada nos princípios de Ferrer desde 1906, que se chamava Escola Racionalista Élisée Reclus.
Et à Porto Alegre, comme tu as demandé, il y a eu un mouvement important qui était une école qui s'appelait l'école Élisée Reclus. L'école rationaliste Élisée Reclus, depuis 1906.
Sim. E durante até 1919, as escolas modernas de São Paulo funcionaram quando foram proibidas e fechadas.
Jusqu'à 1919, les écoles modernes à São Paulo, elles marchaient, enfin, jusqu'au moment où elles ont été fermées.
E
par qui?
Porque as escolas, essas escolas tinham a escola tinha um contato e uma ligação muito grande com os sindicatos anarquistas, com os movimentos grevistas de 1917 e 1919.
Parce que ces écoles ont eu un contact très fort avec les mouvements de grève et le mouvement anarchiste de 1917-19.
Et houve un processus de répression généralisé à partir de 1919 contre le mouvement operário et les immigrants anarchistes.
Et il y a eu un processus de répression qui s'est diffusé à partir de 1919 contre le mouvement ouvrier et contre les immigrants anarchistes.
E muitos sindicatos foram fechados, muitos europeus foram extraditados, expulsos, e todas as escolas em São Paulo foram fechadas.
Il y a plusieurs syndicats qui ont été fermés, toutes les écoles à São Paulo ont été fermées, il y a plusieurs immigrés européens aussi qui ont été expulsés dans leur pays.
Ça a changé de sens.
Ça a changé un peu de sens.
Mais en Porto Alegre, a escola continuou durante alguns anos até meados dos anos 20.
Mais à Porto Alegre, par contre, l'école elle a continué jusqu'au milieu des années 20. Ouais.
Et donc, ces écoles, elles étaient financées comment?
Elles étaient financées avec ajuda dos sindicatos, cotizações de militantes e através de festas, festas e piqueniques.
Elles étaient financées par l'aide des syndicats, des cotisations des militants et par de fêtes, des repas pour payer pour ce point.
D'accord. Donc ça veut dire que les enseignants étaient salariés de l'école?
Os professores ganhavam salário na escola?
Ou c'est des militants qui faisaient la
fome? Ou eram militantes que faziam...
Não se tem um documento muito... Bom, não tem um documento que comprove que eles recebiam salário ou não. Mas a proposta... A ideia anarquista já no sindicato, do anarcossindicalismo, é que não tenha nenhum funcionário, nenhuma pessoa com um salário que trabalhe no sindicato. E eu creio, e todos os estudos levam a isso, que também os professores das escolas modernas não recebiam um salário.
Il n'y a pas de documents qui prouvent historiquement qu'il y a eu un salaire de payer aux enseignants. Et comme on sait que dans le fonctionnement au sein des syndicats, c'était déjà qu'il n'y avait pas d'employés au sein des syndicats, donc les historiciens ils croient qu'effectivement, il n'y avait pas d'employés aussi au sein des écoles. C'était des enseignants bénévoles.
Et la pédagogie qui était développée, c'était une pédagogie libertaire ou c'était une pédagogie un peu classique? Ou est-ce qu'il y a des vraies expérimentations de la pédagogie active tel que les anarchistes le proposaient, quoi, de la pédagogie libertaire dans ces écoles, 1, 2, 3.
Eles propunham uma pedagogia libertária. Não era... Eles tinham... Em princípio, era uma... Aparentemente, seria uma transposição, uma reprodução da escola de Ferrer. Mas, adaptando à realidade do Brasil... ocorreram algumas inovações importantes pédagógicas.
Ils proposaient à faire une éducation libertaire. En principe, c'était inspiré par les idées de Ferrer, mais ils ont aussi dû adapter à la réalité du Brésil. Donc, il y a eu des créations, des innovations pédagogiques.
Lesquelles? Quelles innovations?
Uma inovação e muito importante, eu acho, foi que na escola moderna de São Paulo tinha o boletim da escola moderna, que era feito pelos professores com discussões pedagógicas, mas também eles fundaram um jornal feito pelos alunos.
O boletim era
um periódico.
Um periódico. Une des innovations, c'était qu'à l'école moderne de São Paulo, il y avait une production, un journal fait par les enseignants, mais ils ont créé aussi un journal fait par les étudiants.
Durante muitos anos, os estudantes escreviam seus relatos de passeios, de viagens, propunham, escreviam cartas para outros amigos e enviavam o jornal para familiares, para amigos, que eles mesmos produziam.
Pendant plusieurs années, les étudiants ils pouvaient écrire dans leur propre journal, aussi écrire des lettres à des amis, envoyer leur propre journal et avoir leur propre
production. En quelle année ça?
Foi em que ano?
Isso entre 1912 e 1919.
Ouais. Entre 1912 e 1919.
Donc, un peu comme Fresnel le proposera après.
Sim.
Si. Si. C'est un Fresnel, les échanges entre les écoles et les journaux, c'est 1919-1920, quoi.
Si, si.
On va peut-être passer une pause musicale.
Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons, dit pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc?
ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non. Sur le cœur, pour étendard, ont le sourire du Tché, autour du cou, des foulards, des keffiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant, que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent, ceux qui disent non, mais oui, ils nous ressemblent, ceux qui disent non.
Ceux qui disent non. Michel Buller, toujours sur Radio Libertaire 89.4, toujours en direct de Saint-Imier pour encore une demi-heure.
Donc avec Julia et Rodrigo, donc des compagnons de Sao Paulo et de Rio, c'est ça ? Même si Julia vit un petit peu par chez nous depuis quelques temps, mais bon, elle est de là-bas. On va finir d'évoquer les écoles Ferrer 1, 2, 3 et particulièrement la numéro 1 qui a été fermée dans certaines conditions. Et puis après, on abordera ce qui existe aujourd'hui, porté par les libertaires, soit à Rio avec Julia, soit avec toi, Rodrigo, à Sao Paulo. Ouais, San Paolo, peut-être.
San
Paolo, c'est mieux. Ouais,
ouais c'est mieux.
A escola moderna número 1 teve uma particularidade, que ela foi fechada durante esse período, mas o seu diretor, que se chama João Penteado, reabriu ela um ano depois.
L'école moderne numéro 1 a une particularité, c'est qu'elle a été fermée dans cette période, c'était en 1909, c'est ça ?
19.
En 1919, mais le directeur José Pinto,
João
Penteado, il a ouvert une autre école, il a continué son projet avec une autre école.
Et cette école se chamava Escola Nova.
Et cette école s'appelait École Nouvelle.
Comme la pédagogie nouvelle.
Si, mais antes. No Brasil.
Oui, comme la pédagogie nouvelle, mais avant la pédagogie nouvelle, ouais. Au Brésil.
Ouais. E com as mudanças da legislação educacional no Brasil, ele foi obrigado a adaptar essa escola para uma escola de comércio.
Avec les changements dans les législations, dans la loi d'éducation au Brésil, il a été obligé d'adapter cette école, de la transformer en un statut d'école de commerce.
Que é uma escola só de cursos profissionalizantes.
Que é uma escola que concerne que les cours profissionnels, donc d'apprentissage professionnel.
Ele mudou o nome, colocou um nome insuspeito.
Il a changé le nom, il a mis un nom un peu neutre, on va dire.
E a escola funcionou até 2001.
E a escola ela funcionou jusqu'à 2000.
Ah, jusqu'à 2000. 2001. Ouais. Ah, oui.
Ouais. Sim.
Et pourquoi a-t-elle fermé en 2001 alors?
Non. Et aí.
Ah, attends, il va finir avant de répondre.
Un suspense.
Ouais, un peu de suspense, savoir pourquoi elle a été fermée.
Ele. Mesmo na década de 50, 60, quando a gente vivia durante uma ditadura, a escola funcionava como escola profissionalizante, mas a data de fundação era dia 13 de maio de 1912, que era a data da escola, de fundação da escola moderna.
Mesmo pendant l'époque de la ditature militaire au Brésil, l'école a toujours fonctionné comme école de commerce, mais
école professionnelle. Professionnelle. L'école
ouais,
de commerce en France, c'est très connoté. Ouais.
C'est une école professionnelle, mais avec la date de fondation datant de la date de fondation de l'école moderne qui était
13 de maio de 1912.
13 de mai 1912.
E a escola no final fechou porque houve uma transformação também no ensino profissionalizante em que os empresários se organizaram para criar escolas de formação com a sua própria ideologia. E as escolas antigas de educação profissional foram perdendo importância e ela fechou.
Bon, l'école était fermée parce qu'il y a aussi un autre changement dans l'éducation, c'est que les grosses entreprises, elles ont commencé à créer aussi des écoles des formations professionnelles. Et donc, il y a eu les anciennes écoles, elles ont dû fermer à cause de nouvelles écoles de formation professionnelle des grosses entreprises qui ont pris la place
c'est
de
triste.
Cette éducation.
Ouais. On voit pas, mais nous pleurons tous dans le studio. Ouais. Bon, après avoir pleuré, on peut peut-être évoquer donc ce qui se passe aujourd'hui, soit à San Paolo, soit à Rio. Alors peut-être les comités de quartier à Rio là.
Mm-hmm. Oui, à Rio.
Où les anarchistes sont présents, quoi. C'est
oui,
ça.
Oui, hein, oui, voilà. C'est sûr. Oui, il y a à Rio, il y a un fort mouvement anarchiste au centre-ville. Qui a une militance une force militance avec les sans logements qui squattent des bâtiments pour les sans logements, et ils ont commencé à partir de cette expérience de squatter des bâtiments pour les sans logements, ils ont eu l'idée d'élargir leur champ de militance politique pour l'éducation aussi. Donc au-delà des quelques ateliers de formation dans les bâtiments pour les sans-logements, il y a...
Là, pour restaurer, pour améliorer l'habitat, quoi.
Non, des ateliers de formation un peu... Aussi, par exemple, des ateliers d'informatique pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont aucune connaissance en informatique. Ce n'est pas vraiment une éducation formelle, mais... Qui marche aussi, où les gens ils acquièrent des connaissances quand même. Au-delà de ça, ils ont décidé de faire une chose plus, on va dire, institutionnalisée, qui est un groupe d'éducation populaire, qui est un groupe d'éducation populaire qui actuellement, par exemple, il y a dans une favelas, je pense, vous savez, le favelas,
un
bidonville, un quartier pauvre, au centre de Rio, qui est assez important pour son histoire d'ailleurs, parce que c'était un des premières de résistance des esclaves quand la ville elle était en train de se créer en tant que ville. Et donc ils font ces projets d'éducation populaire qui préparent les gens à passer un concours pour aller à l'université. Parce qu'au Brésil, il faut passer un concours assez important pour aller à l'université. Et les pauvres, normalement, ils n'arrivent pas à le passer, donc ils préparent.
C'est-à-dire qu'il y a une école publique, mais qui a une qualité très moyenne, voire médiocre, et le niveau n'est pas suffisant pour rentrer à l'université. Et seuls ceux qui ont les moyens de se payer des écoles privées accèdent à l'université, c'est
oui.
Ça que ça veut dire.
Oui, et il faut dire aussi que c'était une université publique. Ça veut dire que ceux qui ont des moyens de se payer l'école privée quand ils ont été au lycée ou au collège, ils accèdent à l'université publique, ils ne payent rien après.
Ah,
et qui sont les meilleurs.
Ah, c'est super ça.
Ouais. Hein? Et ceux qui n'ont pas eu le moyen avant, ils n'ont toujours pas le moyen d'accéder à l'université. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre le groupe, ils essaient de mettre en place ce genre d'éducation populaire pour que les gens puissent accéder à l'université.
Ouais. Et ça représente beaucoup de personnes, ça, qui sont dans ces formations.
Ça marche beaucoup par des petits groupes, des petits collectifs. Il y a des collectifs aussi d'alphabétisation. Ça me fait penser à ça. Donc, ça marche beaucoup par des petits collectifs dans différents quartiers, dans différents favelas. Donc, par exemple, celle dont j'ai parlé, Providence, qui est au centre-ville, qui est assez importante. Il y a un collectif d'éducation pour préparer le concours. Mais il y en a d'autres où il y a des collectifs qui font l'alphabétisation des enfants et des adultes aussi.
Oui, parce que tout le monde ne va pas à l'école au Brésil, il faut le dire aussi.
Il faut le dire qu'il y a une bonne partie des adultes qui ne sont pas alphabétisés dans ces quartiers. Et, donc ces collectifs-là, normalement, ils marchent en autogestion entre les professeurs, c'est des bénévoles, ils n'ont pas un salaire, et ils viennent enseigner. Il y a des prises de décisions collectives entre les professeurs.
Ouais. Et il y a des prises de décisions collectives entre professeurs et apprenants?
Oui, pas dans tous les cas, parce que par exemple pour savoir, parce que par exemple pour passer le concours, il y a quand même
un programme ou des exigences, ouais.
Des exigences. Ouais. Donc les professeurs ils connaissent les exigences, donc ils se mettent d'accord entre eux. Mais pour d'autres choses, oui, ils se mettent d'accord. Enfin, il y a des réunions aussi avec les étudiants.
D'autres choses sur Rio?
Ouais, c'est, il y a d'autres, à part ça, enfin, c'est, ça, ça c'est des choses les plus institutionnelles qu'on a, on va dire, maintenant, qui sont menées par les mouvements anarchistes. Yo. À part ça, c'est d'autres, comme j'ai dit avant, d'autres ateliers dans des bâtiments de sans logement ou des ateliers dans des quartiers pauvres, mais moins institutionnalisés, dans une autre forme de pédagogie.
Okay, on y reviendra s'il nous reste un peu de temps tout à l'heure. Et donc à São Paulo, Rodrigo, qu'est-ce que font les anarchistes en matière d'éducation aujourd'hui?
En São Paulo, il y a beaucoup d'anarchistes comme professeurs dans écoles publiques.
À São Paulo, il y a beaucoup d'anarchistes qui sont profs dans des écoles publiques.
Et tentent...
Pour les riches?
Non, des écoles publiques, des écoles, pas les universités.
Écoles publiques. C'est
une provocation gratuite.
et estatales.
C'est des écoles publiques et qui appartiennent à l'État. À l'État, il faut dire que c'est l'État, c'est une fédération, donc c'est l'union de l'État, la fédération brésilienne.
Et qui tentent de faire algum trabalho libertário na medida em que a escola, às vezes na escola pública, não tem muito controle. Você consegue, alguns professores até conseguem ter alguma prática libertária dentro de uma escola pública.
Les professeurs, enfin, les enseignants, ils arrivent à mettre en place des pratiques d'éducation libertaire dans les écoles publiques parce que je pense qu'au contraire de la France, il n'y a pas beaucoup de contrôle sur les programmes. Il y a une souplesse dans les écoles publiques pour les enseignants qui peuvent mettre en place leur méthode d'enseignement chacun un peu à leur façon.
Et também existem cursos pré-vestibulares comme esse do Rio que você já explicou bem o funcionamento.
Il y a aussi d'autres écoles donc préparatoires au concours à l'université comme celle de Rio dont j'ai expliqué le fonctionnement et le fonctionnement il est un peu pareil à São Paulo aussi.
E em São Paulo, nós temos algumas escolas que são libertárias, não são anarquistas, mas têm uma prática pedagógica interessante.
E à São Paulo, on a aussi quelques écoles qui sont libertaires. On ne peut pas dire qu'elles sont anarchistes, mais elles ont quand même une pratique pédagogique qui est intéressante.
Por um lado, tem um grupo de escolas que são chamadas escolas democráticas, que são muito influenciadas por Summer Hill e Tolstoy et Korchak.
D'un côté, il y a un groupe d'écoles qu'on appelle des écoles démocratiques qui sont beaucoup influencées par Summer Hill, Tolstoy et
Korchak. Janusz Korczak.
Janusz Korczak.
Et une de ces écoles surgiu à partir d'un groupe d'études d'éducation libertaire dans un espace anarchiste.
Une de ces écoles, elle a été créée à partir d'un groupe d'études d'éducation libertaire dans un espace anarchiste.
Quand elle a été institutionnalisée avec l'appui d'entreprises, les anarchistes sont sortis.
Quand elle a été institutionnalisée avec le soutien des entreprises, les anarchistes sont partis.
Et ces écoles modernes, c'est des écoles privées ou publiques?
Sont privées. Privées.
C'est des écoles privées.
Donc, vous payez?
Payez. E por outro lado, tem um grupo de escolas influenciadas pela Escola da Ponte em Portugal.
E d'un outro côté, il y a un groupe d'écoles qui sont influencées par l'école de la Ponte, da Ponte. Je sais pas comment ça se dit en portugais.
Je pense on le dit bien, mais enfin, on dit
Escola da Ponte en portugais.
Qui est donc une école qui a été créée suite au mouvement de la révolution des œillets au Portugal.
Oui, c'est ça.
Sim. E algumas dessas escolas são privadas, mas existem escolas públicas que adotaram uma pedagogia e uma organização similar à da Escola da Ponte.
Parmi ces écoles, il y a quelques-unes qui sont privées, mais il y en a aussi d'autres qui sont publiques, qui ont adopté les mêmes directives pédagogiques, enfin les mêmes méthodes pédagogiques que l'école de la Ponte.
Oui, sachant qu'à l'école de la Ponte, une partie de l'équipe pédagogique est clairement libertaire.
Mm-hmm. Si. Ah. Si.
Oui, oui. Est-ce que...
Além disso, tem grupos anarquistas que praticam processos educativos informais, como grupos de estudos, às vezes oficinas e cursos de formação.
Au-delà de ça, il y a des groupes anarchistes qui mettent en pratique, comme ils appellent, des processus d'éducation informelle, avec des groupes d'études, des ateliers des cours de professionnalisation.
O Brasil é um país continental muito grande. É difícil mapear todas essas atividades, mas provavelmente existem outros projetos libertários ou mesmo anarquistas acontecendo agora.
O Brasil é um país de la taille d'un continent, donc c'est difficile de faire une map, une carte de toutes ces écoles et ces expériences, mais on croit, moi aussi, qu'il existe d'autres expériences, donc on connaît même pas dans le pays.
Existe un groupe em São Paulo qui pense em abrir uma escola libertária e mantida por anarquistas com princípios de autogestão, que parte estão dentro da Biblioteca Terra Livre.
Il y a un groupe à São Paulo qui veut ouvrir dans le futur une école d'éducation libertaire. C'est un groupe anarchiste et une partie de ces groupes, ils sont dans une école qui s'appelle l'école.
Partie de ces personnes sont membres de la Bibliothèque Terra Livre.
Ils font partie de la Bibliothèque Terra Livre. Terre libre.
Bibliothèque Terra Livre.
Ouais. De la Terre Libre.
Oui, c'est ça. De la Terre Libre.
Et un bon moment pour nous. Mapearmos essas experiências é o colóquio internacional sobre educação libertária que nós vamos organizar na universidade em São Paulo em novembro.
Donc une bonne on aura une bonne occasion de savoir de rencontrer de toutes ces expériences qui se passent au Brésil dans tous les pays en novembre dans un colloque d'éducation libertaire qui sera organisé par cette bibliothèque, par ce groupe anarchiste.
Et avec un groupe dentro da universidade, na faculdade de educação, da USP.
Elle est organisée par un groupe anarchiste, donc la bibliothèque Terre Libre, et aussi par un groupe qui est dans une université, l'Université de São Paulo. Donc elle est engagée quand même à l'université.
Il y a une chose, ça m'arrive comme ça là. On n'a pas du tout évoqué Brasilia. Rien du tout dans la capitale fédérale.
En Brasilia, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Brasilia est juste un centre de pouvoir.
Ouais, Brasilia, c'est un endroit très compliqué parce que c'est pratiquement qu'un centre de pouvoir, vu que c'est une ville qui a été créée pour être une capitale. Pour concentrer les pouvoirs, il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui se mettent en place à Brasilia.
Espero que no colóquio apareça alguém de Brasília com alguma boa experiência e de outras partes do Brasil.
On s'attend quand même que pendant le colloque à novembre, de rencontrer des gens de Brasília et de savoir s'il y a quelque chose qui se passe par là-bas, parce que pour l'instant, on ne sait pas.
Okay. Et donc ce projet d'école, il va naître quand? Là, tu dis que les anarchistes portent une école libertaire sur les fondements, là. C'est pour dans un an, deux ans, trois ans?
Cinco, dez.
Il dirait dans cinq ou dix ans.
Oh là! Parce qu'on pourrait éventuellement penser à faire une souscription en soutien à l'école libertaire de São Paulo, nous.
Ouais. Pode começar agora.
On peut commencer maintenant. moi, je rajoute, il faut dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des moyens matériels, d'argent au Brésil qu'ici pour fonder ce genre de projet.
Oui, parce que les lois éducatives au Brésil sont très dures en relation à l'ouverture de écoles qui ne sont pas dentro das propostes estatais.
Il y a aussi cet aspect où les lois par rapport à l'éducation au Brésil sont très, très rigides pour les écoles qui ne sont pas dans les mêmes directives que des écoles qu'on connaît normalement.
Ici aussi, d'ailleurs. Peut-être que, pour conclure, là, on va parler des voisins. Est-ce qu'il y a un mouvement des sans-terres, qui est un mouvement très intéressant au Brésil? Est-ce que, dans le mouvement des sans-terres, on a aussi posé la question de l'éducation, même si ce n'est pas sur des bases libertaires?
Le mouvement sans terre non est un mouvement anarchiste, non est un mouvement libertaire.
Pour commencer, le mouvement sans terre, ce n'est pas un mouvement anarchiste ou libertaire.
Ils ont des expériences d'éducation. basicamente de formação política.
Ils ont des expériences d'éducation qui sont aussi des formations politiques.
São importantes. Na verdade, elas caminham em conjunto com o processo de alfabetização dos trabalhadores, dos sem terras, baseado nos princípios do Paulo Freire, basicamente.
C'est des expériences importantes quand même et qui vont dans la direction des principes de Paulo Freire.
Alors, pour les auditeurs, ne confondez pas Francisco Ferrer, l'Espagnol fusillé en 1909, et Paulo Freire, qui est un contemporain qui est mort en 2002, je crois, c'est ça?
Si, 2008.
Oui, et surtout dans l'alphabétisation.
E eles têm um processo muito vinculado à formação de novos militantes, de formação de militantes de base para continuar o movimento. Mas é uma estrutura, no meu ponto de vista, de caráter marxista, leninista.
Eles têm essa ideia, esse processo de formar des militants de base. Donc, ils ont une école de formation des militants de base. Et dans son point de vue, c'est quand même une école de caractère marxiste, léniniste. Et moi, j'y rajouterais que ça rentre un peu dans cette idée de former l'avant-garde un peu à la base. Ouais,
si. Donc, ça ne sent pas trop bon, quoi.
Il y a alguns anarchistes qui tentent atuar dentro du mouvement sans terre, mais c'est muito difficile.
Il y a quelques anarchistes qui essayent quand même d'avoir une militance politique dans le mouvement sans terre, mais c'est très difficile.
Et une proposta de éducation vinculada à la lutte pour la terre ou à la lutte pour du sans-teto, je pense que serait bien intéressant et important que les anarchistes estivessem présents et tivessem une proposta plus solide.
Du sans-teto ou du sans-terre?
Dos deux.
Ah. Et lui, il croit que ça aurait été important que les anarchistes aient une place plus importante dans ces mouvements-là, que ce soit dans le mouvement sans terre ou dans le mouvement sans logement dans les villes, et avec une proposition d'éducation libertaire.
Ça va venir. Faut pas désespérer. voilà, vous me dites aussi qu'au niveau des sans terre, il y avait aussi de la formation professionnelle agronomique. C'est-à-dire qu'ils avaient des liens avec les universités des États du Nord, là où ça se passe, pour améliorer le processus agricole.
Si le MST a une formation agricole.
Agrônoma, pour
si, si, eles mesmos não fazem, mas eles têm parcerias com universidades públicas para enviar pessoas para esses cursos universitários comuns.
Ils font pas par eux-mêmes, mais ils ont des accords avec des universités publiques où ils envoient des gens dans un cours, dans une licence normale, qui apprennent l'agronomie ou font les études dans d'autres domaines pour mettre en pratique ces connaissances dans le mouvement santé.
Mais les travailleurs, même les personnes du campo, já têm esse conhecimento pela prática, né?
Mais les travailleurs sans terre, les paysans sans terre, ils ont déjà ces connaissances au travers de la pratique, par la pratique.
Voilà. On va conclure. Vous souhaitez dire autre chose sur l'éducation libertaire renaissante ou à venir dans les États du Brésil? Julia?
Ce que je pourrais rajouter, c'est que moi, de mon point de vue, l'éducation libertaire, elle ne passe pas que par quelque chose d'institutionnel. Donc, comme j'ai parlé à Rio, il y a un groupe d'éducation populaire dans le favelas qui est plus institutionnel, qui est constitué en tant que groupe d'éducation libertaire. Mais il y a d'autres façons et formes d'éducation qui se font dans les bâtiments de son logement ou même dans des quartiers qui ne passent pas par une institution ou par un collectif déjà fondé. Par exemple, il y avait beaucoup d'ateliers, comme j'ai dit, d'informatique dans le bâtiment de Saint-Jugement, d'ateliers de théâtre et même de cours d'alphabétisation aussi, qui sont faits un peu spontanément par des gens qui ont voulu mettre en place, qui ont voulu venir bénévolement et passer leurs connaissances.
Bom, eu acho que a escola é um espaço de disputa em que nós, a escola e a educação é um espaço de disputa em que nós anarquistas devemos atuar em todos os espaços possíveis.
E então, ele pensa que a escola é um espaço onde os anarchistas devem tentar prendre place dans cet espace, pour avoir une, pour espérer d'avoir une autre façon d'éducation possible.
Seja criando espaços de liberdade em instituições já existentes ou criando novas escolas, que no meu ponto de vista é o objetivo maior.
Que ce soit dans les institutions qui existent déjà, dans les écoles qui existent déjà, créer des espaces de liberté dans ces écoles-là, ou que ce soit de créer de nouvelles écoles qui sont basées dans cette éducation libertaire, qui dans son point de vue, c'est pour lui, c'est le plus important de créer de nouvelles écoles qui sont basées.
Okay. Bon, on en parle en novembre à Rio,
si, ou à si. São Paulo. São Paulo, si.
Tu voulais dire un tout petit mot, on pourrait conclure là.
Bom, eu acho que a responsabilidade de um anarquista em relação à educação é o principal. Você tem que atuar em qualquer espaço que seja, de qualquer maneira, mantendo sempre viva a sua vontade e a sua e a ética anarquista.
Por lui, ce qu'un artiste doit faire, c'est d'être dans des espaces, que ce soit des espaces institutionnels ou de n'importe quel espace. Si on garde une cohérence avec notre éthique anarchiste, on peut avoir une militance dans des espaces différents, que ce soit des institutions.
Et je vois une école et une société libre à travers de l'éducation, avec notre intervention cada vez plus forte no ambiente éducationnel.
Et lui, il voit une école, une société libre qui serait faite au travers de l'éducation. Et comme ça, on aurait une nouvelle façon de faire l'éducation, de savoir faire en société aussi, de créer une société libre.
Et esse ano, que commémorons 100 ans de la fondation de l'École moderne de São Paulo, viva Ferrer!
Cette année, on célèbre les 100 ans de la fondation de l'École moderne de São Paulo. Alors, vive Ferrer!
Alors, vive Ferrer! Et puis, alors, avant de rendre les studios, l'antenne à Paris, comme on dit dans les grandes radios, pour aller plus loin, pour ceux que ça intéresse, il y a un petit livre aux éditions du Monde Libertaire de Alessandro Samis, qui est donc de la Fédération anarchiste de Rio de Janeiro, qui s'appelle L'anarchisme au Brésil, qu'on peut lire pour savoir plus de choses sur le syndicalisme et le mouvement anarchiste au Brésil. Et il y a quelques années, apparu à l'atelier de création libertaire un bouquin qui s'appelait « Éducation libertaire ou école anarchiste au Brésil », dont je ne me rappelle pas exactement le titre, qui est peut-être épuisé d'ailleurs, qui donnait quelques informations justement sur ces écoles 1, 2, 3 et la suite qui en a été donnée. Voilà, donc on peut lire en français un certain nombre de choses sur l'anarchisme au Brésil ou les écoles anarchistes au Brésil. Voilà, merci d'être venu. Puis
ouais, merci beaucoup.
On reparle de tout ça à Saint-Imier et puis peut-être à São Paulo au novembre.
merci beaucoup.
Au revoir.
Eh bien, comme le disait Hugues à l'instant, il est l'heure de rendre l'antenne à Paris. Je vous mets une toute dernière pause musicale. Ça va être La Semaine sanglante par Un tondu, un chevelu. Et vous retrouverez vos programmes habituels sur Radio Libertaire jusqu'à demain 13h, où nous reprenons les directs depuis Saint-Imier aux rencontres internationales de l'anarchisme. Au revoir.